PSG sur France Bleu. Bruno Salomon.
Salut tout le monde, bienvenue à toutes et à tous dans Tribune PSG. Au sommaire ce soir, un 3-0 sur la Côte d'Azur qui fait parler. Le PSG a impressionné et on va bien sûr décortiquer cela dans cette tribune. Tactiquement, le 3-4-2-1 est-il la formule gagnante pour le Paris Saint-Germain pour cette saison? On va là aussi en parler. On vous a posé la question sur les réseaux sociaux, c'est la question des internautes. On regardera bien sûr les résultats, mais j'ai bien l'impression que le oui l'emporte. Neymar commence à monter en puissance et a commencé aussi à s'éclater avec le Paris Saint-Germain. Et il aime jouer avec un jeune qui commence à percer. On va le mettre au centre de cette émission. C'est Moussa Diaby. Coup de fil à venir avec l'association des Titi du PSG. On évoquera aussi la Ligue des Champions avec Belgrade qui débarque et ça s'annonce chaud, très très chaud sportivement, mais aussi autour et peut-être dans les tribunes. On espère que tout se passera bien pour cette rencontre qui se jouera mercredi à 19h, à suivre bien sûr en intégralité sur l'antenne de France Bleu Paris. Avec moi dans cette émission, et ils vont apparaître et ils vont ouvrir la porte dans quelques instants, Émilie Ross, notre digital manager, Joss, le youtubeur foot et rap, Tonton Stéphane de foot123.fr, la mémoire vivante, et Bertrand Métayer du Parisien. Ils arrivent, juste le temps pour eux de s'installer. Nous, on se fait un petit résumé de ce qui s'est passé samedi. C'était en Ligue 1, c'était sur France Bleu Paris avec Rico Rab et Sandra. Le résumé du match, et à tout de suite.
Attention à Christopher Nkunku qui va rentrer à la surface de réparation après ce ballon de Marquinhos. Oh, comment on rate la balle! C'est pour Neymar maintenant qui va vouloir frapper. Il enroule. Oh, il s'appelle Neymar. C'est un génie du football. Et alors là, celle-ci, les enfants, il est allé la mettre petit filet droit et il vient de climatisé, il faisait 30, il fait plus que 20 ici à l'Alliance Riviera. Wouhou! Quelle frappe! Diaby se dit j'y vais, non! Il donne à Neymar. Neymar qui est à 22, 23 mètres grand maximum, pousse un tout petit peu le ballon et brim! Il ouvre son pied et il va la placer. Petit filet droit de Walter Benitez, 1-0. Mbappé, Di Maria pour Mbappé en profondeur. Mbappé face à face. Mbappé a éliminé Walter Benitez. Mbappé, la frappe de Neymar derrière. Non, c'est coup de coucou.
Oh,
le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas touché le ballon. Les Niçois sur ce coup d'envoi. On a fait tourner, on est passé en défense, on est passé par Rabiot. On s'est appuyé sur Neymar. Et ensuite, derrière, on accélère. On donne à Mbappé qui donne à Di Maria. Di Maria qui remet en profondeur pour Mbappé. Mbappé qui élimine Walter Benitez. Et Walter Benitez qui ferme finalement bien la porte. Qui revient bien face à Mbappé. Qui réussit à dégager le ballon sur le petit piqué. Mais ensuite, ça revient dans les pieds de Christopher Nkunku qui n'a plus qu'à ouvrir correctement son pied et le mettre petit filet gauche.
Bien,
pour Christopher Nkunku, magnifique. Et là, c'est reparti pour une contre-attaque pour le Paris Saint-Germain avec maintenant Adrien Rabiot qui fixe. Adrien Rabiot qui sert à Mbappé. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Le face-à-face avec Benitez. Il va donner à Neymar. Goal! Et cette fois-ci, il n'y aura pas de position de hors-jeu.
Non.
Il vérifie juste. Mais là, il n'y a pas de problème. Le Paris Saint-Germain qui met le troisième. Voilà, on l'a, notre différence de 3 buts. En tout cas, nos 3 buts par match.
Oui, parce que rappelez-vous, désormais, le dicton au Paris Saint-Germain, c'est pas les 3 points, c'est les 3 buts pour le PSG. 17h34, salut la team.
Salut, pas mal, bien,
c'est à peu près coordonné.
Ouais, on est plutôt pas mal. Ouais.
Tonton Steph, Émilie Ross, Joss avec nous, Bertrand Métayer, tout le monde est autour de la table. Et déjà, Émilie sur les réseaux sociaux.
Eh ben, ça déroule. Bonjour à tous. On a Olive qui nous suit depuis l'Allemagne aujourd'hui. Non, parce que je rappelle quand même qu'on est une émission internationale, les gars. Faut pas l'oublier.
C'est ça. Eh ben, tiens, je rebondis et on salue Andrew.
Exactement.
Qui est derrière la vitre, qui est un de nos auditeurs les plus fidèles écossais de son état. Il m'a dit, est-ce que je peux passer? Il est installé derrière la vitre.
Welcome.
Il passera peut-être nous voir dans quelques
minutes.
Hein. C'est la meilleure place avec Sarah à la réalisation.
Émilie. Et il y a Max quand même, je tiens à le souligner. Max nous dit, salut la team, la seule radio qui ne dise pas n'importe quoi sur Paris. Merci.
C'est gentil.
Max, on t'embrasse.
Voilà. Merci, Max. tu enverras ton
rib. Ça dépend lesquels.
Voilà, c'est ça. 17h35. Il est déjà, il est coquin, il est taquin. Africain, notre tonton Steph. Et bien sûr, vous n'hésitez pas à réagir. Je vous rappelle que la question des internautes, Émilie, aujourd'hui, on va pas donner tout de suite le résultat, on va laisser encore les gens voter, mais la question était...
Nice est-il le match le plus abouti de la saison pour le PSG? Donc je rappelle qu'on vous a posé la question sur Twitter, Facebook et Instagram.
Et Instagram, et vous n'hésitez pas, et sur Instagram, vous allez pouvoir aussi sur Twitter découvrir la photo officielle de l'équipe. On est beau comme des camions.
Ouais. Et on n'est même pas maquillés, les gars.
On n'est même pas maquillés, effectivement. Ça se voit d'ailleurs pour moi sur cette photo, mais on est au Parc des Princes.
Ça dépend des photos. Hein. Moi, il y en a où je m'aime bien et d'autres où c'était une véritable cata.
Bon,
les enfants. Ça va, les chuchotes, là. Ah.
Allez, on a terminé le point tricot et on attaque Nice.
Alors, les gonzesses, ça vient d'elle.
Voilà, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Déjà, petit tour de table. Est-ce que ce PSG vous a impressionné? C'est quand même ce qui est ressorti dans la presse, c'est quand même ce qui est ressorti pour beaucoup de supporters. Joss, est-ce que toi aussi, ce PSG à Nice, t'a plu?
Ouais, j'ai été agréablement surpris de voir un PSG qui mettait enfin de l'intensité dans un match assez important face à une bonne équipe de Nice. Ça a été malheureusement un match à sens unique pour le PSG. Grosse intensité, ils ont asphyxié l'adversaire. Et le score aurait pu être beaucoup plus salé que ce qu'il y a eu.
Ouais, c'est vrai que le 3-0 est sympathique. Mais tout cas, on a vu les Niçois, et pour les avoir vus sortir un par un de la zone mixte, voir aussi Patrick Vieira, ils étaient... dépité, c'est le premier adversaire qui vraiment se... Même Reims déjà, c'était un peu ça hein, mercredi dernier.
C'était une première étape. Ça nous avait déjà bien plu, on est monté d'un cran là, tout à fait. Et moi ce que j'ai aimé, c'est que les Niçois sont rentrés un peu dans l'art des Parisiens. On sait qu'en général ils aiment pas ça, même parfois ils perdent leur sang-froid. Je pense qu'il y a un an sur une même situation, Neymar prenait un carton rouge. Là, au contraire, il a répondu par le jeu, par la qualité, il a été parfait.
Bertrand.
Oui, ce qui est impressionnant, c'est que ça a été un investissement dès la première minute, ce qui n'a pas toujours été le cas de Paris depuis le début de la saison, qui parfois avait tendance à être une équipe à réaction. Alors, ils ont tellement de marge qu'ils pouvaient se le permettre, mais ce que leur demandait Thomas Tuchel, c'est justement d'entrer plus fort, plus vite dans les matchs. Là, on peut dire que on pouvait pas faire mieux, globalement, et qu'après, mais comme ce qu'on a vu aussi sur les derniers matchs, c'est-à-dire que même quand le score est plié, là ils jouaient à 11 contre 10, enfin tout allait bien. Il y avait quand même toujours de l'investissement, de l'impact, de l'envie d'aller marquer encore un nouveau but. Et c'est vrai que c'est excessivement impressionnant. Et alors même si le suspense dès le début de la saison, il n'y en avait pas énormément, ça peut finir quand même avec un gouffre abyssal en fin de saison s'il continue sur ces bases.
Et puis au vu aussi des résultats des autres équipes, puisque je rappelle que la Ligue de football voulait que ce soit Marseille, Lyon qui colle un peu le train du Paris Saint-Germain. En fait, c'était le même début de... Voilà, il y a un L et il y a un M, mais c'est Lille et Montpellier. Et derrière Saint-Etienne, et après, tu trouves la caravane des autres.
Enfin, la Ligue voulait, c'est surtout Lyon et Marseille qui avaient normalement armes. Peut-être pas poursuivre le Paris Saint-Germain, mais pour faire quand même mieux que ce qu'ils font en début de saison. Après, c'est un championnat à 19 génial, hein, la Ligue 1. C'est-à-dire que il y a le PSG, voilà, qui est hors norme, mais le reste, pour le coup, c'est un championnat passionnant parce que tout le monde peut battre tout le monde.
Regardez la place de Monaco. Qui aurait dit qu'après 8 journées, Monaco serait barragiste?
En tout cas, Monaco qui est vraiment dans un sale état. Pour avoir regardé, j'ai une vie passionnante, mais vendredi soir, pour avoir regardé le Saint-Etienne de Monaco, c'était pas beau.
On l'a regardé aussi.
Voilà, mais c'est
vrai que vous l'avez regardé.
Vous étiez autour d'un gâteau, je voudrais pas dire, attention. Émilie, ça réagit sur cette victoire, justement.
Ça réagit. Alors, je vous donne déjà quelques réactions à chaud, et je vous donne aussi après le sondage. Donc, il y a Frédéric qui nous dit que c'était un grand pari. Un autre Frédéric, parce qu'on a le gang des Frédéric aujourd'hui. Un bon PSG dans la maîtrise et intensité. Par contre, on a Yann Tatou qui nous dit attention, trop de déchets de la part de Di Maria et de Mbappé. Dave Dam qui nous dit trop de déchets et ce n'est pas une équipe européenne. Ako nous dit j'attends Lyon pour vraiment voir un match de
référence. Est-ce que tu peux juste me rappeler le prénom du garçon qui disait qu'on était une émission de référence tout à l'heure?
Max.
Max. Eh bien, Max, si tu as bien écouté la semaine dernière cette émission, comme de plus en plus de monde sur les réseaux sociaux, un homme a regardé dans sa boule de cristal et nous a dit si le PSG met de l'intensité. Il nous a fait le comparatif. Il s'appelle Joss. Il est youtubeur. Il aime le foot et il aime le rap. Et il nous avait dit c'est comme quand tu vas au boulot, c'est-à-dire que si tu travailles pas ton examen, à la fin, t'as rien. Et bien là, il voulait de l'intensité. Tu as eu de l'intensité face à Reims, tu as eu de l'intensité face à Nice. Donc, ils t'ont écouté, le PSG écoute cette émission.
Ah, ça serait cool.
Thomas Tuchel aussi.
Religieusement.
Religieusement.
Non, mais c'est clair que moi, j'avais parlé du fait que le PSG doive se concentrer en championnat pour pouvoir réaliser des exploits en Ligue des Champions. À la suite du match face à Nice, on a Marquinhos qui a dit, on a enfin pris conscience qu'il faut augmenter notre intensité en Ligue 1 pour pouvoir aller plus loin en Ligue des Champions. Et on a aussi Didier Deschamps qui a eu un petit commentaire sur l'équipe de Tourelle qui a dit « Le PSG joue dans un championnat où il gagne la plupart de ses matchs avec le frein à main. » Puis il se retrouve soudainement en Ligue des Champions contre des adversaires qui apportent une agressivité et une qualité complètement différentes. Alors là, on a vu vraiment le PSG avec un bon état d'esprit, avec l'intensité qu'ils doivent mettre toute l'année en championnat. Et c'est que comme ça qu'ils arriveront, je pense, à réaliser des exploits en Ligue
il
des Champions.
Il a plissé les yeux en te regardant, puisqu'il y avait eu des balles la semaine
dernière. Bah, oui, bien sûr. Un sourire suffira.
Non, mais ils ont une intensité.
Tonton, il est d'accord.
S'ils sont comme ça tout le temps, quand on va arriver en Ligue des Champions, c'est-à-dire mercredi, tu vas avoir un peu de gaz quand même.
Bien sûr, mais le Paris Saint-Germain remportera la Ligue des Champions tout en étant issu de la Ligue 1, je vous le garantis. On ne sait pas quand, mais ça viendra. Voilà, moi je pense que c'est une question d'état d'esprit dans les matchs européens. Voilà, c'est tout simplement. À partir du moment où Paris ne rentrera pas sur le terrain avec un but de retard face à Barcelone, Chelsea, le Real ou le Bayern, Paris sera en mesure de remporter la Ligue des Champions.
On se garde le sondage, encore quelques instants, Émilie, on en parlera tout à l'heure. Oui, non, mais c'est parce qu'en fait, je vais peut-être le glisser même au niveau tactique. On va peut-être sur le côté la formule.
Non, tu veux la formule. C'est toi qui vois. Hein.
Non, c'est toi, d'accord. Très bien.
Alors là,
non, j'ai pas le droit.
T'es le patron. Voilà. Ah, si,
on va y revenir en tout cas dans quelques instants. Ce PSG est un PSG record en plus, on le rappelle. Bon, alors un record vieux de. Est-ce que ça a une valeur, un record vieux de 81 ans?
Ah ouais.
C'est mieux qu'un record qui date d'il y a 6 mois, quoi.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
D'ailleurs, c'est fou. C'est un peu plus symptomatique. C'est fou qu'entre 1936 et aujourd'hui, aucune équipe n'ait gagné 8 matchs consécutivement.
Même le Grand Lyon
pour commencer. Ouais. Le Grand Lyon, le Grand Saint-Etienne, le Grand Marseille, le Grand Reims, personne ne l'avait fait.
Non, ça montre à quel point c'est compliqué et qu'au-delà de l'avance théorique du Paris Saint-Germain, il faut quand même l'investissement dont on parlait. Après, la question est de savoir même jusqu'où peut aller tenir ce record. Parce que avec cette implication-là, je vois pas même des grosses écuries supposées du championnat de France contrarier
Lyon quand même.
Faut se méfier du nom, mais
pour moi c'est Lyon qui me fait le plus peur.
À domicile,
sur un match, cette série de victoires, match retour alors.
Parce que
même au Parc, faire attention. Ce qu'ils ont fait à City, ils sont donc.
Effectivement.
Je suis pas serein.
On rappelle juste que c'est la première équipe à enchaîner 8 victoires consécutives depuis 81 ans. C'est la seule équipe à avoir mis à chaque fois 3 buts minimum. Hein. C'est le tarif maintenant pour le Paris Saint-Germain. Ça aussi, c'est impressionnant. C'est la force offensive se met en place.
C'est très impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Ils ont les joueurs pour rouler sur le championnat. Une fois que les joueurs se mettront dans la tête qu'ils peuvent jouer ensemble aussi, parce qu'il y a cette cohésion qu'il faut trouver dans l'équipe. Tourelle, c'est aussi pour ça qu'il fait pas mal de tests avec les différents systèmes. Et il le fait bien parce qu'en plus il implique les jeunes. Et ça, c'est une chose que les entraîneurs du PSG ne faisaient pas forcément. Et il arrive à impliquer tout le monde. Et les joueurs le disaient justement. Même les jeunes aujourd'hui, ce ne sont pas des jeunes, ce sont des joueurs à part entière qui font partie de l'équipe et qui ont des choses à démontrer.
Tonton, tu voulais réagir.
Moi, je voulais juste dire que les temps ont sacrément changé parce que dans ma jeunesse, et Dieu sait que c'était pas hier, la phrase qui sortait tout le temps dans les tribunes entre supporters, on se disait le Paris Saint-Germain sera champion quand il remportera ses 2 premiers matchs. C'est-à-dire que, juste pour vous dire le gouffre qu'il y avait.
Ah bah là,
et l'année où il remporte les 2 premiers matchs, il devient champion de France en 85-86.
Bon. Voilà. Là, t'es en train de nous dire que
Ça veut dire que
après, ils ont déjà été champions en perdant leur premier match aussi.
Mais seulement avant 85-86, c'était la phrase que se disaient tous les supporters. On sera champion quand on gagnera les 2 premiers matchs. On en est à 8. C'est pour dire si le PSG a changé de galaxie.
Émilie, sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux, ça réagit. Tout le monde attend vraiment le match de Lyon. Et après, quand même, le match de mercredi pose quand même quelques questions. Je pense que tout le monde attend de voir. Alors, c'est globalement l'avis général. On disait, ouais, mais attendons. Là, on était bien sur Nice, mais attendons de voir.
La Ligue des Champions, on en parle en deuxième partie d'émission. Il est 17h45. Vous êtes dans Tribune PSG. Nous parlons, bien sûr, du match de Nice où tout le monde a été impressionnant. Et on va se faire un premier focus sur un joueur. Un joueur qui, comme l'aurait dit le grand Charles, j'espère que vous avez apprécié quand même que le chef, hein, parce que c'est Chef Manu qui aide à préparer cette émission, qui a dit tiens, si on faisait un hommage à Charles Aznavour, décédé aujourd'hui à l'âge de 94 ans. Alors, formidable, et ben je vous propose l'homme en haut de l'affiche, c'est bien sûr Neymar. Je vous rassure, on s'arrête là, parce qu'après, au niveau des titres, on a plus réussi. Ouais, on n'arrivait plus à faire connaître le truc. Neymar en haut de l'affiche. Ce matin, s'est passé un événement sur l'antenne de France Bleu Paris, puisque si vous écoutez ici, c'est France Bleu Paris avec Tonton Steph, que vous pouvez retrouver aussi sur les réseaux sociaux et en podcast. Tonton Steph a fait des éloges, mais pour Neymar. Si Neymar est comme ça, il va redevenir le meilleur joueur du monde. Stéphane.
Oui.
Il est de retour,
il aime
son poste de numéro 10, il aime casser des lignes et il se bat. On l'a vu défendre, on l'a vu dire à Mbappé, tant sur le corner, reste-toi à 35 mètres, 40 mètres, moi je redescends, je vais dans la surface pour aider.
Ah ouais, non, ça a été parfait, il a été très bon. Et finalement, c'est gagnant-gagnant parce que en le faisant reculer déjà d'un cran, d'abord, ça lui permet, puisque c'est ça sa force, il a une vision extraordinaire, il a deux pieds extraordinaires. En plus, il a déjà une partie du travail défensif qui est fait. C'est-à-dire que quand il était devant, il y avait plus de boulot. Donc là, il est tout de suite derrière les attaquants, il est plus près de ses milieux de terrain et des défenseurs, et il a cette vision exceptionnelle qui fait de lui l'un des meilleurs joueurs du monde quand il est comme ça.
Bertrand, sur Neymar, le retour, en tout cas, on rappelle juste, bien sûr, vous les avez peut-être vus si vous avez traîné sur les réseaux sociaux ces dernières 48 heures, 27 matchs en Ligue 1, 26 buts et 15 passes décisives. Et avec ses deux buts à Nice, il est désormais meilleur buteur de Ligue 1, seul 7 buts en 7 matchs.
Je pense qu'il y a un petit truc qui a changé depuis le début de la saison, c'est que il joue avec Kylian Mbappé qui a lui-même changé de dimension. Et qu'à un moment, je suis persuadé que tout Neymar qu'il est, à un moment il s'est dit, il faut peut-être un tout petit peu plus que je rentre dans le moule du collectif parce qu'il va falloir laisser de la place et que si je veux aller loin et gagner, il faut que je gagne aussi avec au-delà des autres avec Kylian Mbappé. Voilà. Après, c'est sûr qu'il se régale dans cette position parce que devant lui, il a soit Kylian Mbappé, soit Cavani, Di Maria qui prend la profondeur. Enfin, il y a beaucoup de gens à distribuer. En revanche, je le trouve parfois un petit peu loin de la zone de vérité, comme je disais.
Les entraîneurs. Et effectivement.
Il fait des passes laser, mais son ratio, c'est ça, 26 buts en 27 matchs. Ouais. Il est aussi très bon. Alors, il marque de loin, mais quand même, quand il est un petit peu plus près. Et je me demande si ces passes laser, dans des matchs où c'est un petit peu plus dense, un peu plus compact, notamment en Ligue des Champions, il soit un petit peu loin de cette zone de vérité.
Mais il perd pas de sa réussite. La preuve, c'est qu'il a quand même inscrit 7 buts en cette rencontre cette année.
Mais face plutôt à des équipes plus faibles en championnat.
Ouais, c'est vrai que moi, ce que je trouve intéressant dans son replacement, c'est il a eu cette grosse blessure qui, je trouve, le gêne encore aujourd'hui. Il essaie de faire des efforts. Je me rappelle d'un ballon qui part en profondeur et qu'il est impossible pour lui d'avoir, mais il fait la course parce qu'il essaie justement de. Ça se voit que physiquement il travaille en tout cas. Et je trouve que c'est intéressant pour lui ce replacement. Sur le côté gauche, il était très prévisible. C'était tout le temps les mêmes mouvements. Il essaie de rentrer à l'intérieur pour pouvoir enrouler ou pour pouvoir tirer. Là, en fait, il devient beaucoup moins prévisible. Et puis il a une telle vision de jeu et une qualité de passe si intéressante que justement devant avec les deux finisseurs, ça fait des étincelles.
Bertrand, et après on va voir les réseaux sociaux bien sûr, vous réagissez sur ce débat qui s'installe autour de la table, autour de Neymar qui retrouve, je voulais mettre au départ, enfin, en haut de l'affiche, voilà, mais je n'ai pas fait trop le taquin, Bertrand.
Non, mais ce choix de le replacer au centre du jeu et donc en position de numéro 10, c'est le choix de Thomas Tuchel depuis qu'il est arrivé à Paris. Il avait cette envie de l'installer là parce qu'il estime que il a plus d'influence sur le jeu, ce qui est vrai et parce qu'il peut partir des deux côtés, il peut prendre l'axe, il peut distribuer. Et c'était vraiment le projet numéro numéro un pour Thomas Tuchel et il est en train de le mettre en place. Il a pas pu le mettre en place tout de suite pour X raisons. Et là, à chaque fois qu'il l'a mis dans cette position, ça a été très efficace.
Sur les réseaux sociaux, Émilie, Neymar fait parler.
Oui, Neymar fait parler. Alors j'en profite aussi pour saluer Tom qui nous suit de Tokyo. Il y a Jean qui nous suit de La Réunion.
Allez.
Il y a notre consultant préféré, Eric Rabessandratana, qui nous suit aussi. Donc on
l'embrasse. De Nancy, ce qui n'est pas tout à fait pareil que Tokyo.
Mais c'est sympa, mais côté climat, c'est pas mal.
Hein. C'est très bien.
Ouais, c'est pas mal. La nuit surtout.
Et donc pour revenir sur Neymar, il y a Jean-Paul Le Hibou qui nous dit Neymar est un très bon joueur, ne l'oublions pas. Frédéric nous dit Neymar est plus propre dans le jeu et il a moins de gestes parasite depuis quelques matchs. Il y a JC qui nous dit Neymar a simplifié son jeu et je pense enfin qu'il a trouvé sa place. Dominique nous dit surtout il a changé sa mentalité, est-ce l'effet de Tourelle ? Et Benjamin nous dit Neymar est un superbe joueur de foot mais on a toujours la crainte qu'il lâche les efforts collectifs et joue la diva.
On va faire une espèce de chose globale. En fait, est-ce que c'est pas plusieurs planètes qui viennent de se mettre en place ensemble ? Thomas Tuchel est arrivé, a rencontré Neymar à Londres pour discuter avec lui avant du projet. Il y a eu cette Coupe du Monde où Neymar s'est un peu fait fracasser par tout le monde parce qu'il a plongé, etc. Est-ce que finalement, bon an, mal an, et puis il y a un peu ce désamour qu'il est à Mbappé en plus qui est devant lui, voilà, tout s'est réuni pour que finalement, s'il se remette en question, ça ne peut que servir le Paris Saint-Germain.
Et puis servir un petit peu lui aussi quand même, oui. On l'a dit un grand nombre de fois. Il a raté sa première saison à Paris pour de multiples raisons, peut-être un problème d'acclimatation, la blessure en plus qui est venue se rajouter là-dessus. Après, probablement une mauvaise communication aussi. On ne va pas reprendre toute la série. Non. Donc, il était là en deuxième année au Paris Saint-Germain. Il savait que de toute façon, il allait rester au moins encore un an. Il fallait qu'il réussisse son année. Donc, il a eu l'intelligence de changer. Alors maintenant, j'attends de voir sur la longueur. En tous les cas, depuis le début de la saison, il a changé et il a changé en bien. Il retrouve ce qu'il était à Barcelone.
Nice, d'ailleurs. Il n'y a pas que Nice, là. Depuis Rennes, quand même, depuis qu'il est à son poste, on le sent mieux, quoi. Là, ça fait trois matchs.
Effectivement, Jost, où il réagit.
Oui, il faut aussi rappeler que Neymar, c'est une superstar, c'est de la communication, c'est des réseaux sociaux, c'est du business. Et ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas été nommé dans les galas. Il y a eu le best joueur où Neymar n'a reçu aucun vote, zéro vote pour lui. Je pense que c'est quelque chose qui a aussi touché son ego et il se rend compte finalement qu'il y a des joueurs qui sont arrivés cette année comme qui ont un statut différent aujourd'hui et c'est tout dans son intérêt qu'il fasse une très très bonne saison cette année avec le PSG.
Pour le Paris Saint-Germain, c'est finalement tout ce qui est en train de lui arriver. Alors, c'est aussi une part de sa faute, hein, mais c'est la bonne nouvelle pour le PSG s'il est dans le bon état d'esprit. En plus, il accroche au discours de l'entraîneur, ce qu'il ne faisait pas avec Unai Emery. On avait clairement compris qu'il n'en avait rien à faire.
Il accroche comme l'ensemble de l'effectif, parce que voilà, tous les retours du vestiaire montrent qu'il y a une adhésion collective au projet et à la personnalité de Thomas Tuchel. Voilà. Neymar, certes, là, a peut-être fait son meilleur match depuis le début de la saison, mais voilà, on se rappelle quand même qu'à Liverpool, ça n'a pas été ça, et que c'est dans ces matchs-là qu'on l'attend. On a un peu l'impression de se répéter, mais malgré tout, à Liverpool, on a vu un Kylian Mbappé qui a plutôt tenu son rang en attaque, et ça a été assez catastrophique pour Neymar. Mais sûrement que dans tous les soubresauts qu'il y a eu après et les discussions, notamment sur son apport défensif, sûrement que Neymar a dû entendre parler un peu du pays et que c'est peut-être reconcentré un petit peu sur le projet collectif.
On l'a vu sur le terrain, vraiment parler, beaucoup échanger avec Thiago Silva. On avait l'impression d'avoir le vice-capitaine du Paris Saint-Germain, en fait. Avec les jeunes, avec Diaby.
Le
leader technique de cette équipe. Donc, il a forcément un rôle important à jouer, évidemment. Et puis, il a quand même une histoire, un passé qui fait qu'il est respecté et respectable. Donc, je pense qu'il s'y était vraiment mal pris l'année dernière et qu'il a rectifié le tir. Ou autour de lui, on lui a conseillé de rectifier le tir. En tous les cas, le résultat est... Ouais, c'est une transformation.
Encore certaines choses sur Neymar sur les réseaux sociaux où on peut passer à l'homme avec qui Neymar aime beaucoup jouer en ce moment. Je sais pas si non.
Moi, je veux continuer des bons joueurs. Alors du coup, et je vais demander aux internautes, est-ce que vous mentez, vous êtes sérieux? Parce que du coup, alors on a le bonjour du Vietnam. Il y a Pierre qui nous suit de Vietnam. Mais je trouve ça génial, vous me fascinez. Bon, il y a Drixé qui nous dit.
Bah oui,
qui nous dit quand même. Bon, moi je suis de l'autre côté du pont de Grenelle, mais il nous embrasse quand même.
C'est un début de Vietnam, hein, c'est de l'autre côté.
Et il y a Elsa qui nous a rejoint, donc on l'embrasse, ma Elsa.
Eh bien, on l'embrasse aussi à 17h55 dans Tribune PSG. Il y a un garçon. Qui, mercredi, a éclaté, explosé devant les yeux de tout le monde. Je me rappelle d'un texto d'un copain qui s'appelle Thibaut, qui pendant le match m'a envoyé en disant « C'est pas vrai, c'est génial ce qui est en train de se passer sur le terrain. On est en train de voir une pépite naître au PSG. » Il s'appelle Moussa Diaby. On n'attendait pas son deuxième match.
Il a du talent, ce garçon.
Petit tour de table. Moussa Diaby, comme ça, en quelques mots. Et après, derrière, je vais... prendre la personne qui nous attend depuis une dizaine de minutes, et je le remercie, qui va nous parler de Moussa Diaby, justement, Anthony Vivien, des Titi du PSG. Moussa Diaby ?
Du talent, de l'avenir, une révélation aussi, depuis deux matchs. Je me suis posé la question ce matin, ici c'est France Bleu Paris, je me suis posé la question de savoir s'il ne pouvait pas être un postulant pour un poste postuler à un poste de titulaire au milieu de terrain à un moment dans ce Paris Saint-Germain-là.
Émilie ?
De la concentration. Je le trouve hyper concentré et il regarde beaucoup les joueurs. Je repense à l'échange qu'il avait eu avec Cavani il y a 2-3 matchs où Cavani l'avait un peu repris et tu sens qu'il écoute et je le trouve en tout cas efficace.
Bertrand ?
Disons que ce système-là lui va très bien parce qu'il peut vraiment mettre en lumière ses qualités. Après, il faut toujours relativiser. C'est plus facile d'être très fort autour de très grands joueurs. Et là, il est entouré de très grands joueurs. Quand on donne un ballon à Neymar, même si on le donne moyen, il y a plus de chances qu'il réussisse un bon contrôle et qu'il en fasse quelque chose. Et quand
Neymar aime bien jouer avec lui. Il cherche techniquement
parce qu'il voit que c'est un bon joueur et qu'il a des qualités et que sûrement.
Il est rapide.
Il faut s'appuyer sur tout le monde et donc y compris sur un garçon comme ça. C'est très bien. Ne le mettons pas non plus trop tôt. C'est un garçon sont très jeunes, il avait montré des bonnes choses tout l'été et il est en train de le confirmer. Et puis c'est bien que Thomas Tuchel fasse de la place aux jeunes du centre de formation. Il y en avait beaucoup là au coup d'envoi. Hein.
On va en reparler justement dans quelques instants, puisqu'on rappelle que 10 Titi ont tous au moins joué 3 matchs en ce début de saison, ce qui est quand même complètement fou. Joss, sur Moussa Diaby.
Fort potentiel. Voilà. Après, moi, j'ai pas envie de partir dans des, c'est une pépite, c'est un futur. À chaque fois, c'est ce qu'on fait avec les joueurs français et, comme le disait Bertrand.
On l'a fait avec Mbappé.
Ouais, mais il a confirmé.
Ouais, on l'a fait avec Oganda aussi.
Il est champion.
Moi, je me souviens d'un match d'Oganda qui jouait avec Ibrahimovic et on s'est dit, ça va être génial.
Augustin réussit pas trop mal en Allemagne.
On lui reproche de pas rentrer. C'est vrai qu'il est sur son téléphone. Mais oui,
il faut faire attention.
Puis c'est très facile.
Il faut les protéger aussi.
Après, on n'a pas la garantie qu'il sera champion du monde ou capitaine.
Non, mais je veux dire, c'est très facile d'évoluer dans un collectif qui est fort. Voilà, on le voit. Faudrait le voir dans un collectif peut-être moins intéressant si lui arrive à faire la différence.
Rapidement, quelques commentaires parce que ça réagit beaucoup sur Diaby. Il y a Ludo qui nous dit oui, pour Diaby, il faut absolument le garder. Ako nous dit il est monstrueux. Maxence renchérit en disant c'est une pépite, je pense qu'il a une grosse marge de progression. Et après, il y a l'autre team, un peu plus modéré. Cédric qui nous dit une révélation, mais attention à ne pas s'enflammer. Sébastien qui nous rappelle pourvu qu'il garde son insouciante et qu'il n'hésite pas à se lâcher sur le terrain. Et André, vous savez qu'il est déjà venu la saison passée, qu'on connaît très bien, a dit lorsqu'il a marqué contre Saint-Etienne, on a vu un homme pleurer à côté de nous, c'était son oncle, une pure pépite à conserver.
17h58, salut Anthony Vivien.
Salut Bruno et salut à toute la team.
Salut.
C'est bien quand on suit les Titi du PSG depuis plus de 10 ans d'entendre qu'un petit de la formation soit mis en avant comme ça. Est-ce que toi tu es surpris par ce démarrage canon de la part de Moussa Diaby ?
Pas surpris par son en toute honnêteté, pas surpris par son démarrage canon, même si c'est extraordinaire ce qu'il réalise. Après il faut confirmer, mais quand on reçoit un Titi d'or il y a maintenant de cela un an et demi, suite à des votes de coéquipiers tels que Nsoki, Bernet, Zagadou, Soumaré, etc., ça prouve bien qu'on a du talent et un an et demi après, il est en train de démontrer que ce trophée c'était pas anodin s'il l'avait reçu, c'est qu'il y avait quelque chose pied, dans le cerveau, et bah, il mérite tout ce qui lui arrive aujourd'hui. Et maintenant, le plus dur commence.
Anthony, juste, je rappelle, pour ceux qui découvrent peut-être les titis du PSG, Instagram, Twitter, Facebook, et une nouveauté avec toute une équipe derrière, Titi Forever. C'est un journal que vous pouvez importer, ou en tout cas exporter sur les voilà, réseaux. Vous prenez, vous achetez 1 euro, je le vends très mal, je suis désolé.
Télécharger, c'est le mot voilà, que tu cherchais.
Bam, allez hop là, ça s'est fait, pardon Anto, excuse-moi. Télécharger, et bien sûr, Titi Forever. Juste, est-ce que tu peux nous faire, Anto, un petit portrait rapide de ce gamin-là, pour ceux qui ne le connaissent pas? Il nous arrive d'où? Il est arrivé tôt?
Il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites à propos de sa personnalité, mais si on doit retracer un petit peu sa vie footballistique, donc lui, il est issu de la promo 99, on parle en termes de promotion lorsqu'on intègre le centre de formation du PSG. Donc il avait pour coéquipier Nsoki, Bernet, certains sont partis comme Gendouzi, Lagadou, Soumaré. Donc c'est un pur parisien d'origine malienne. De
il est du 19, hein, 19e.
Donc milieu offensif, attaquant, ailier, il aime tous les postes qui se situent sur d'un point de vue offensif. Gaucher, qui a eu sa première licence de football à l'âge de 10 ans, c'était à l'Espérance de Paris. Il avait signé à 12 ans au PSG, mais juste pour s'entraîner, il faisait les matchs du week-end avec l'Espérance. Et ensuite, il a basculé au centre de Préfaux, donc à l'âge de 13 ans. Et donc voilà, il fréquente le Paris Saint-Germain maintenant depuis plusieurs années, et puis il a fait toutes ses classes, hein, que ce soit U17 nationaux, U19 nationaux. Il a une particularité, c'est qu'en 2016, il a été double champion de France, à la fois avec les U17 et à la fois avec les U19. Voilà, il est à la fois dribbleur, vif, rapide, technique, explosif, percutant. On peut lui donner vraiment tous les adjectifs de l'attaquant moderne.
J'adorerais qu'on parle de moi
comme ça. Et très bon finisseur. Il a vraiment toujours eu des stats où il tourne à un but tous les 2 matchs, un but tous les 3 matchs. En plus des passes, nombreuses passes décisives qu'il peut réaliser. Et puis c'est quelqu'un de très poli. Et ce qui est marrant, c'est que dans son jeu, il ose provoquer ses adversaires. Et alors que c'est plutôt quelqu'un discret, de réservé, très timide dans la vie. Et pour l'avoir croisé la semaine dernière après les confs de presse, voilà, on sent qu'il a franchi un cap au niveau de la maturité avec le petit passage qu'il a eu en Italie, qui s'est pas forcément passé comme il aurait souhaité. Mais au final, on sent que c'est cette petite difficulté qu'il a pu rencontrer lors de son prêt à Croton, ouais. Lui servent aujourd'hui.
C'est bête pour Croton quand même, Anto. Hein. Croton, il l'avait sous la main et ça n'a pas explosé pareil. Ce qui veut dire aussi que peut-être entouré de joueurs un peu moindres, voilà, pour l'instant, ça veut rigoler. Anto, reste avec nous quelques instants. Merci pour déjà ce petit portrait qui a été fait. Et si on glisse sur les Titi en eux-mêmes, on a... alors. Peut-être que c'est par obligation pour Thomas Tourelle, mais quand même 10 jeunes du centre de formation, issus du centre de formation, qui depuis le début de la saison,
c'est
du jamais
on
vu.
On a toujours tenu ce discours, on a toujours rêvé en regardant,
il y a de la matière,
en regardant le Barça réel, en disant il y a plein de joueurs qui sont issus de leur centre de formation, et finalement, si c'était pas ça l'avenir du Paris Saint-Germain, eh bien là, Tourelle, bravo à lui, il est en train de mettre ça en place. Effectivement, on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même très agréable pour un jeune d'être entouré de mecs de cette qualité-là autour de lui. Donc ça en lancera plein, et aujourd'hui bah, ils se sont fait une place grâce aussi à une Coupe du Monde bien réussie par la plupart des joueurs du Paris Saint-Germain qui sont rentrés tard et qui ont permis à certains d'éclore.
Oui, Émilie, sur les réseaux sociaux, et après je viens de voir Bertrand.
Ça réagit justement, il y a Thibaut qui nous dit c'est un pur bonheur d'avoir des jeunes talents comme Diaby à Paris, il faut les couver et les garder obligatoirement. Et il y a Benjamin aussi qui nous dit Diaby est talentueux et elle mérite de saisir sa chance à chaque fois qu'il joue. Les jeunes du PSG ces dernières années ne sont pas nombreux à avoir été aussi vite satisfaisants en pro.
Alors juste la petite anecdote, pour l'avoir vu après le match face à Reims, où vraiment il a été très bon, il nous a dit, il a parlé de Thomas Tourelle, il a dit « Le coach m'a parlé Montpellier le voulait absolument et Montpellier était prêt à le faire venir et à lui proposer du temps de jeu pour cette saison. Et vraiment, c'est Thomas Tuchel qui lui a dit reste, je te promets du temps de jeu. Et tu, voilà, et il a dit je profite d'avoir le micro, je le remercie puisqu'il tient ses paroles. En gros, voilà, l'entraîneur tient les paroles. Donc bilan des opérations, le gars va le suivre jusqu'au bout du monde, un petit peu comme toute cette génération.
Ah ouais. Après, Thomas Tuchel, il avait pas un choix énorme aussi dans le sens où voilà, Paris pouvait pas faire ce qu'il voulait en termes de recrutement, et donc il fallait la jouer un peu malin et aussi prendre le pari de se dire bah j'ai un petit jeune, je vais essayer de le faire travailler, et ça vaut pour Diaby, ça vaut pour Nsoki, ça vaut pour Dagba.
Oui, parce que là on met Diaby en avant, mais ouais. la prestation d'Nsoki pour l'instant c'est sur courant alternatif, voilà. Contre Nîmes ça a été difficile, contre Reims ça a été très bien.
Dagba, il y a des choses intéressantes. Voilà, mais c'est en fait c'est presque parfait pour eux. Ils sont dans une équipe qui archi domine son championnat et qui à un moment va se concentrer sur ses plus gros rendez-vous. Donc qui va laisser de la place pour eux pour les faire souffler. Il y a quasiment que des internationaux, donc à part Adrien Rabiot qui pour l'instant était un peu à l'écart de l'équipe de France, mais sinon tous les cadres ils vont partir à chaque fois en sélection. Donc il y aura toujours un petit peu de place. Mais il faut pas oublier que quand Unai Emery est arrivé, il disait aussi que dans sa feuille de route, il y avait développé les jeunes du centre de formation. Laurent Blanc disait exactement la même chose.
Je pense qu'ils l'ont tous su.
Voilà, ils l'ont pas fait.
Ouais, ils l'ont pas fait.
Laurent Blanc et Adrien Rabiot, hein. Nkunku, Kimpembe. Il y a un peu de monde.
Juste Adrien, sans dévoiler peut-être les secrets, mais on sait que les jeunes avant avaient du mal à se dire on reste au PSG parce qu'on aura du temps de jeu. Toi qui fréquentes le centre de formation, toi qui connais ces jeunes, est-ce que le discours est peut-être en train de changer, voilà, où les jeunes se disent bon, on a quand même la possibilité, on peut avoir notre chance au PSG?
Oui, bien évidemment. Déjà, faut dire qu'il y a toujours eu d'excellents footballeurs au centre de formation du PSG, et que tout est vraiment dépendant du choix du coach et de la pression qu'il peut ressentir. Et ces dernières années, on avait eu affaire à des entraîneurs qui manquaient peut-être un peu de courage dans certains moments pour faire lancer des jeunes, et qui étaient plus à regarder leurs propres résultats et à se dire est-ce que je vais sauter ou pas, est-ce que je prends un risque de faire jouer tel jeune à tel poste. Et là, on sent qu'il s'est pas posé de questions. Alors c'est vrai, comme le disait tout à l'heure, Bertrand. On est dans une année de Coupe du Monde, ils ont su en profiter. Donc c'est bien, faut continuer. Et effectivement, l'afflux de signatures de contrats professionnels avec des projets sur plusieurs années leur permettent de se libérer, de jouer avec beaucoup moins de pression. Le fait d'avoir du temps de jeu, d'avoir été testé pendant des gros matchs cet été, d'être intégré maintenant de façon très régulière aux entraînements. Ils sentent qu'ils sont considérés comme des footballeurs professionnels à part entière et pas comme de simples construits foot comme pouvait le dire Kingsley à l'époque.
Merci beaucoup Anthony. Vivien, tu es attendu dans cette émission pour venir partager avec nous bien sûr ton amour pour les titis du PSG et pour le PSG en lui-même. Je vous rappelle.
Un grand merci de mettre les jeunes en avant et l'avenir leur appartient.
Ouais, effectivement. Bien dit, Anthony. En plus, il y a un truc qui me plaît, je vais vous le dire franchement. Moi, de voir Kimpembe prendre sous son aile le petit Moussa Diaby quand il arrive, etc. Tu te dis, voilà, une transmission qui est en train de se mettre en place et c'est plutôt sympa. Titi Forever, le magazine officiel de l'association des Titi du PSG.
Et on vous a mis le lien, justement, de leur page Facebook et du site internet. Vous pouvez retrouver ça dans nos commentaires.
Queen Bee, elle est là. 18h08, justement, Queen Bee. C'est l'heure du coup de griffe ou du coup de cœur. Ça donne quoi et... Le chef, il n'a pas mis en fait le coup de cœur, je te le dis.
Ah bah c'est pas grave, mais vous inquiétez pas, de toute façon ça m'a énervé. Donc je vais vous raconter.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui t'a énervé? Qu'est-ce que c'est comme coup de griffe?
Non, il y a un truc qui m'a énervé, donc ouais, c'est une sorte de coup de griffe, c'est Dani Alves. Pourtant, j'aime ce joueur, sauf que là, en fait, ces derniers temps, j'ai reconnu en lui un certain Evra sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que là, Dani Alves, on le voit surtout par rapport à ses fresques sur Instagram. Donc, il faut savoir que Dani Alves a pris le métro parisien, et ça, attention, le mec va faire des stories pour expliquer qu'il prend le métro parisien. Mais comme il va à la Fashion Week, je vous passe sa tenue où il est un peu habillé comme Blade. Enfin, je sais pas si vous souvenez de ce film.
Le vampire.
Voilà, et donc le mec se filme dans le métro parce que forcément, c'est formidable.
Il avait l'air fatigué. fatigué en plus.
Il a, ou je, fatigué, toi, tu dis.
C'est
d'accord.
Ça.
Il n'y a pas la copine de Neymar qui a pris
aussi,
le métro.
Ouais, aussi elle a pris le métro avec ses copines.
C'est une bonne période pour prendre le métro. Vous pouvez croiser Daniel Vest.
C'est très bien le métro.
Et donc, il y a la deuxième vidéo où je rappelle quand même que ce mec a été blessé, etc. Et donc, il essaye des talons aiguilles pour la Fashion Week. Et donc, il marche en mini-short avec des talons aiguilles.
Ouais.
Et là, bon, bah voilà. J'aimerais qu'on parle de lui autrement que sur ses frais
agressifs. Ah oui, mais le problème, c'est que là, il ne peut pas jouer. Donc,
je voudrais rebondir. Vous qui vous y connaissez en matière de football. Ça. Moi, je voudrais
rebondir.
J'ai
vu
qu'il allait dire talons.
Depuis quelques temps, je ne comprends pas bien les choses du foot. Et je n'ai pas compris ce que faisait Daniel Alves dans le 11 mondial de l'année. Il n'était même pas à la Coupe du Monde. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment il a pu se retrouver à ce poste-là.
Je pense que si tu mettais Meunier, là, il prenait un coup.
Meunier ou quelqu'un d'autre. Il y en a plein dans tous les clubs, au Barça, au Real, au Bayern. Enfin, Daniel Alves, on a l'impression que sa place est réservée actuellement dans le 11 de la FIFA. Mais j'ai rien contre lui, évidemment. Mais une année où il ne joue pas.
Il a un abonnement, peut-être.
Donc, si quelqu'un peut m'expliquer comment on a pu voter pour lui.
C'est toujours un petit peu relativisé, tu sais. Alors, c'est juste ces récompenses.
Dans cette émission.
Une équipe type où il n'y a pas Antoine Griezmann.
Hein, oui, c'est ça. Oui, c'est pas très bizarre.
Mais un qui ne joue pas, qui ne participe pas à la compétition majeure.
Là, c'est sûr que c'est
et qui n'a pas été fabuleux avec le Paris Saint-Germain, au point.
Note que le meilleur gardien de l'année n'est pas dans l'équipe type de l'année.
Oui, c'est vrai.
C'est ça.
À partir de ce moment-là.
C'est vrai.
Elle n'a pas terminé son coup de griffe. Excuse-moi, parce que dans cette émission, on a parlé d'aller acheter le maillot de Choupo-Moting. Oui, nous allons lancer le fan club dans cette émission. Oui, toi, Eric Maxime Choupo-Moting, tu vas avoir ton propre fan club dans cette émission.
Mais et j'ai l'impression que tout le monde l'aime. Moi, tout le monde m'en parle.
Et ben voilà.
C'est
et ben, je vous
une sorte de mascotte.
Je vous annonce que le 15 octobre, dans cette émission, le futur président du fan club va arriver.
Comment
je l'ai trouvé.
Il
s'appelle Julien C. Vous aimez, voilà, et vous n'avez qu'à chercher désormais, mais je vous jure qu'il est fan et qu'on va lancer. Et donc, Émilie nous avait dit, je vais aller acheter le premier maillot.
Exactement.
D'Éric Maxime Choupo-Moting.
Parce que.
Et il est où?
Eh ben, il est où? Donc, moi, ce midi, pause-déj, bim, Twingo, on prend la voiture, on va au magasin du Parc des Princes. Bonjour, messieurs, dames. Donc, je rappelle aussi qu'aujourd'hui, le maillot Jordan, enfin, la collection de Jordan est sortie. Donc, autant vous dire que j'étais pas toute seule. Mais en tout cas, j'étais toute seule à chercher, donc, à floquer un maillot Choupo-Moting. Et là, figurez-vous qu'on ne peut pas faire floquer un maillot. Pourquoi? Parce que le blaze du monsieur est très grand et qu'en fait, il faut savoir que le floquage des joueurs, il est un peu incurvé en fait. Sauf que quand vous allez vous faire floquer un maillot, c'est tout droit.
Là, qui était grand aussi.
Ouais, non mais là, c'est plus grand, Choupo-Moting, attends.
Choupo-Moting avec le tiret, etc.
Donc t'es en train de me dire que tu...
Je me suis fait bâcher et donc... Alors tout le monde a été très gentil avec moi à la boutique parce que je pense qu'ils voyaient bien dans mon regard que je voulais absolument ce maillot pour aujourd'hui, que je n'ai pas eu. Et donc il va falloir que je repasse une fois que le maillot officiel sera sorti parce que là, le nom est trop grand et le floquet en tout droit, ça ne marche pas, ça ne rentre pas. Et alors sur les tailles femmes, je vous raconte pas, donc voilà.
C'est une info France Bleu Paris et
exactement.
Tribune PSG. On peut pas acheter de maillot Éric Maxime Choupo-Moting. Ah ouais non, mais là c'est exceptionnel.
Alors j'ai pas fait attention, mais quand il joue, il y a bien écrit Choupo-Moting.
Sauf que voilà, le maillot officiel des joueurs, en fait, tu sais, le nom est incurvé. Alors que quand tu te fais floquer tout seul, c'est droit.
Et donc,
tu gagnes
là,
un peu. Voilà. C'est mathématique. Tu vois, l'arc de cercle, il est un petit peu.
Exactement.
Donc, en fait, il faut piquer son maillot.
Il faut demander son maillot à la fin du match. Et donc, moi, j'attends que le maillot officiel sorte. Donc, Choupo,
je vais me déguiser en enfant la semaine prochaine.
Mais Choupo m'a dit qu'il est très sympa.
Mais
oui. Il est très sympa. Il a l'air d'être complètement, avoir intégré son rôle. Il sait pourquoi il est là. Il rentre dans le. Non, il est fantastique.
Mais c'est là sa conférence de presse géniale. Enfin, tu sens qu'il est
super. On l'a vu à la fin du match contre Rennes. Il est posé, il explique les choses calmement. Il se vexe pas content. Quand on lui fait quand il est un peu un joker de luxe.
On avait un banc fabuleux là samedi quand même. T'avais Cavani, alors Choupo-Moting parce que moi ça m'amuse quand même de le voir. Et Verratti, Buffon. Et là tu regardes ton banc et t'es fier quoi.
Ah bah oui. C'est clair.
C'est
voilà, merci.
Enfin, contre Belgrade, il n'y aura pas le même monde.
Ça va pas être pareil. Mais là, pour l'instant, on va passer à la suite. Merci pour ces deux coups de griffe, Maëmilie. Et on passe à la suite avec la formule gagnante. Et donc, le sondage. Oui, qu'est-ce qui se passe?
Attends, j'ai juste un message de Malagasy qui nous dit d'ailleurs, pour Choupo-Moting, c'était la même chose à l'époque pour notre Rabé Sandratana.
Voilà, Rico Rabé Sandratana, effectivement. Notre Rico, c'est pas facile d'avoir son maillot.
Exactement. Voilà.
Tu sais qu'il les a tous donnés, ces maillots. Il peut même pas m'en ramener un petit.
Il a un gros cœur.
Mon Rico, effectivement. il a été généreux. On passe désormais à le king de la tactique. Je vous conseille, et c'est pas parce que c'est les copains qui viennent toutes les semaines, mais franchement, je vous conseille le Parisien du jour, avec deux pages sur, alors, le dessin fait par Bertrand Métayer lui-même.
Alors, ça nous a fait une demi-heure ce matin.
Hein, d'accord.
De débrief. Qui a fait ce dessin?
Qui a fait ce dessin?
Et, bon, et on c'est connaît toi le coupable. Non, c'est pas nous.
On a
des services sérieux dans le Parisien.
Au PSG, version Tourelle, tous concernés. On nous présente les 4 schémas tactiques, les 10 matchs, les 10 compos proposés. Combien de fois il a utilisé le 4-3-3? Combien de fois il a utilisé le 4-2-3-1, le 3-5-2? Et désormais, le 3-4-2-1, qui a été plutôt performant. Est-ce que c'est la formule gagnante? On va avoir notre sondage grâce à Émilie dans quelques instants. Et il y a tout, voilà, gros boulot de Yves Leroy et Sébastien Nieto. Ouais, tout à fait. Je vous le conseille, il y a plein de choses à apprendre.
Ouais, ce sondage, c'est l'élection des Miss France, quoi. Tu le teases depuis tout à l'heure.
Voilà, et là, 18h14, tu peux le dire. Allez, Queen Bee, à toi.
Donc vous avez été plus de 800 à participer au sondage. On vous a posé la question sur Twitter, Facebook et Instagram. Nice est-il le match le plus abouti de la saison pour le PSG? À 85%, vous répondez oui.
Voilà, donc ça au moins
c'est
réglé.
D'accord avec nous, ouais, tout à fait.
Mais on a utilisé la défense à 3. Et il va la réussir.
Alors moi, tu sais, tout ce qui est tactique comme ça, je me rappelle toujours qu'à chaque fois qu'on a reçu ici, ou moi, dans une autre vie de journaliste, à chaque fois que tu parles avec des joueurs ou avec des techniciens, des entraîneurs, ils te disent que
c'est pas le système qui est important,
mais
c'est l'animation.
Mais évidemment, voilà. Donc, c'est bien, évidemment. Mais dans un match, le système, il change 200 fois.
Oui, mais quand même, cette défense à 3, passer avec 4 milieux devant,
mais oui,
c'est quand même assez intéressant.
Mais ça reste, on le voit, c'est bien pour le coup d'envoi, c'est bien pour quand les joueurs se replacent. Oui, évidemment, quand tu joues avec 3 défenseurs, 10 centraux et que tu renforces ton milieu de terrain avec des latéraux qui montent un peu plus, tu peux considérer que, mais je pense pas qu'il y ait un latéral qui s'arrête sur sa ligne et qui revient pas à un moment filer un coup de main aux 3 de derrière. C'est ça que je veux dire. Il y a des schémas tactiques, mais il y a une animation.
Ouais, mais je pense que quand on parle de schéma, ça va être le comment l'équipe va se débrouiller dans ces matchs types. Et justement, je trouve que le PSG change beaucoup de formation. Alors c'est vrai que c'est intéressant, ça implique plein de personnes, mais il faut quand même que Tourelle, il ait sa formation de base qui lui permettra aussi d'aborder les grands matchs. On parle des grosses équipes, Liverpool a une formation type, le Real a une formation type. Alors ils ont différentes variantes, mais ils ont quand même un socle sur lequel ils peuvent s'appuyer et en lequel ils ont confiance.
Le chercheur fou Thomas Tuchel qui n'arrête pas de chercher les systèmes. On a l'impression, alors je viens pas faire le comparatif parce qu'ils sont tous les deux allemands, mais pour avoir suivi un peu la première ligue, ça fait quelques années que j'aime ce championnat, ça fait même depuis ma tendre enfance, mais on a l'impression de revoir Klopp qui est en train de faire le génie fou, c'est-à-dire qu'il est avec tous ses joueurs, il regarde tout son banc, il regarde tout ce qu'il a, il essaye à droite, à gauche, il tente, on le voit dans les stats, 25 joueurs utilisés, ils ont tous au moins été une fois titulaires, enfin voilà, à part Eric Maxime Choupo-Moting et Giovanni Lo Celso, mais il essaye, il tente, il regarde...
Après, je pense que son système en 3-5-2, voilà, c'est un petit peu ce qu'il veut mettre en place depuis le début, parce que maintenant il a un peu fait le tour de toutes les possibilités, et c'est le système qui lui permet de mettre tous les joueurs qu'il veut vraiment utiliser. C'est-à-dire que il va mettre ses trois défenseurs centraux parce que c'est très compliqué d'en sortir un. Alors là, il a pu mettre Marquinhos au milieu, mais c'est pas une solution très viable. Donc voilà, il va pouvoir mettre ses trois défenseurs centraux, il va pouvoir mettre Neymar en 10, il va pouvoir mettre Cavani et Mbappé un peu plus dans l'axe parce que on sait que Mbappé a aussi envie de ça. Il va pouvoir avoir Verratti et Rabiot au milieu pour créer, et sur le côté, il va nous mettre un Di Maria et peut-être un Meunier de l'autre côté, et voilà, qui vont alterner. Et il aura mis ses 11 sur lesquels il compte pour aller loin en championnat et surtout en Ligue des Champions. Et au-delà de effectivement ce qu'on disait sur les schémas tactiques, je pense qu'on on s'en fout un petit peu, voilà, tout le monde adore ces schémas et faire des flèches et de ça et jouer au coach et faire des petits trucs à la Guardiola. Ah, au final, ce qui compte, c'est quels 11 joueurs tu mets sur la feuille, et avec ce système en 3-5-2, il met les 11 joueurs qui veut.
Ouais, mais justement,
il y a bien une formation de base.
Bien sûr, il y a une formation de base. Elle s'adapte beaucoup plus aux joueurs. Pourquoi il a testé aussi? C'est parce qu'il disait, il faut aussi que je vois mes joueurs. Il y a des coachs qui ont un schéma
préétabli.
Voilà, préétabli. Et après, ils mettent leurs joueurs dedans, ils les contraignent.
Il s'éloignait pas souvent.
Voilà, il s'éloignait.
Il a tenté, mais les joueurs lui ont dit, t'es gentil, tu reviens à ton 4-3-3.
On est d'accord, mais tu verras que finalement, in fine, ça va se ressembler quand même. Dans les grands matchs, tu vas retrouver probablement.
Ce sera toujours à peu près
mais voilà,
équipe.
Ce sera les mêmes. Sauf que Tuchel, c'est à mettre à son crédit, tente des choses et met d'autres joueurs dans la boucle. Parce qu'à un moment, tu peux être privé d'un de ces 11 ou 12 pseudo-titulaires et tu peux avoir besoin d'un jeune ou d'un autre à qui tu as donné un peu de temps de jeu, qui a des automatismes aussi.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il change en cours de match.
Parfois plusieurs fois. Moi, j'adore
et
ça.
Alors, je sais. Parfois, c'est peut-être pour s'adapter à l'adversaire. Parfois, je suis sûr que c'est parce que il voit que son équipe, pour X ou
raison, il est en réaction. Voilà. Il se passe quelque chose.
Et ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça au Paris Saint-Germain.
Émilie, sur les réseaux sociaux, ça discute de Thomas Tuchel, le tacticologue.
Exactement. Alors là, on a des tacticiens, là, je vous raconte pas. Il y a Maxence qui nous dit un entraîneur qui change beaucoup de tactiques, mais à chaque fois, c'est payant. Ludo nous dit oui, ça permet d'avoir plusieurs tactiques et d'être du coup moins prévisible. Il y a JC qui dit « Je pense qu'il est important de varier les jeux durant une grande compétition afin d'exploiter les faiblesses de l'autre équipe avec plusieurs possibilités d'attaque. » Et enfin, Joanie nous dit « En effet, Tuchel n'a pas fini d'expérimenter, mais au-delà du résultat, voire même de la manière, il est en train d'apporter quelque chose d'énorme, une unité dans le groupe et une confiance collective et individuelle. »
Mais ce qui est assez marrant, c'est que voilà, ce que tu disais tout à l'heure, Bertrand, pour rebondir là-dessus, c'est qu'effectivement, il voulait absolument trouver la place d'Angel Di Maria. Il a dit, c'est l'un des joueurs que je préfère. Pour moi, c'est un cadeau de l'avoir.
À partir du moment où il le voulait, enfin, il voulait l'avoir dans son 11, effectivement, il fallait lui trouver une place qui ne soit pas celle de remplaçant d'un des deux ailiers. Donc, il a trouvé.
Ouais. Parce que là, il est en train de trouver, finalement, Joss, la place où le joueur est le mieux. Il l'est. C'est ça aussi, c'est qu'il est en train de regarder.
Il a sa formation et moi je suis d'avis à ce qu'il ait une formation type. Parce que c'est vrai que c'est bien de changer tout le temps, mais la Ligue des Champions, c'est pas le championnat. Et on a été surpris à Liverpool justement parce que cette équipe a l'habitude d'évoluer ensemble et dans un schéma bien précis. Il veut aussi mettre Di Maria, il veut mettre Neymar en 10. Alors moi je pense qu'il va, continuer avec ce 3-5-2.
Di Maria qui, je crois, a prolongé aujourd'hui
le journal de l'équipe.
Voilà,
alors, l'équipe l'annonce, pour l'instant, le club n'est pas encore. N'officialise pas.
C'était des discussions qui.
Je crois qu'ils ont un peu pété le plan de com, j'ai l'impression, parce qu'en fait, ils ont annoncé le petit Colin Dagba pour 2 ans, parce qu'on parlait de la formation. Colin Dagba
trois
qui.
Ans.
3 ans d'ailleurs. Ouais. Et Di Maria, ça devait suivre en fait. Et en gros, ça vient un peu se mettre au milieu
ça
de.
Ça va venir. Mais effectivement, c'était dans les tuyaux. Ça a l'air de se.
Bonne nouvelle.
Concrétiser.
Oui,
bien sûr. Oui, Émilie.
Ça réagit encore. Il y a Sacha qui nous dit ce qui passe par le système, c'est surtout l'évolution des consignes individuelles. Gaëtan nous dit aussi c'est l'animation qui prime plutôt que la formation.
Je salue particulièrement ce Sacha parce que je crois que c'est un membre de ma famille.
C'est
la
vrai.
Famille.
Tu vois, tu
c'est mon
que...
Michel,
alors, Sacha.
On est un peu
j'ai pas retenu le nom de ta maman déjà, Joss, qui nous écoute.
Moi, c'est pas important.
Vas-y, attends, il m'en veut. Voilà, parce que j'ai.
Non, c'est la maman de Joss.
La maman de Joss, ok. Autre, très bien. Tu voulais terminer.
Du coup, j'embrasse ma mère, ouais. Et il y a Frédéric aussi qui nous dit il est plus facile d'évoluer dans un 3-5-2 sans véritable numéro 6.
C'est pas faux.
De toute façon,
comme on en a pas.
Ah,
et je vous demande d'accueillir notre ami Andrew qui nous vient d'Écosse. Alors, c'est plus les Écossais, c'est plus le Celtic. Comment tu vas, Andrew? Viens, discuter deux secondes, donne-moi des petites notes, je vais chercher une petite chaise.
Ah bah oui.
Et ça y est, il a pris la place du patron.
D'accord, il est comme ça. Tiens, viens me mettre là. Laisse-moi quand même ma place. Voilà. Andrew qui est avec nous. Tiens, on va juste se parler quelques instants. Andrew, est-ce que ça va déjà?
Ah bah moi ça va très bien, tranquillou.
Approche-toi un tout petit peu.
Bonjour.
Voilà, qui est auditeur. On explique juste comment ça se passe. Tiens, juste expliquer. Andrew qui est auditeur, qui nous envoie des messages toutes les semaines sur Twitter, sur Facebook, qui nous dit toujours un petit coucou, qui habite en Écosse.
C'est ça.
Coin.
Édimbourg.
Et alors qu'il est le seul mec, t'as le PSG qui débarque à Glasgow, Et tu étais où ?
J'étais à Naples, en vacances avec madame.
Ça, c'est parfait.
J'étais déçu. Mais bon,
c'est le boulot.
Oui, c'est ça, exactement. C'est non, c'était pour madame qui est derrière. Qui
madame, voilà, bonjour, voilà. Si vous nous écoutez.
C'est toujours la faute de madame.
Voilà. En tout cas, on va parler de la Ligue des Champions. Ouais. En roue, vous partagez le micro avec Bertrand, comme ça, si vous voulez réagir. On parle de cette Ligue des Champions, Belgrade, c'est à 19h. On va parler quelques instants de la problématique, avant la problématique sportive. On repart dans un passé qu'on n'était pas mécontent d'avoir oublié. On nous annonce 2000 fans. C'est bien l'UEFA qui sanctionne l'Étoile Rouge de Belgrade en leur disant « Ah non, vous ne faites pas de déplacement », sauf qu'il y a quand même 2000 zouzous qui ont réussi à trouver des places pour entrer dans le stade. Et à première vue, ils ne viennent pas que pour chanter, quoi.
Qu'est-ce qu'on peut dire ? Il va falloir, ça va donner beaucoup de travail aux forces, aux forces de l'ordre.
Doubler la sécurité,
évidemment, c'est compliqué. On sait que c'est des supporters qui peuvent être violents.
Alors, peut être hardcore,
pas tous, évidemment. C'est juste aussi le moment où la tribune d'Auteuil va être fermée. Donc ça simplifie pas non plus les choses. Bref, c'était pas le match idéal pour fermer une tribune où il y a déjà beaucoup de monde. Et je présume que ces gens-là vont être répartis un peu dans d'autres endroits du stade. Donc avec des risques, évidemment. Alors il n'y a plus qu'à croiser les doigts et espérer que les 2000 supporters de l'Étoile Rouge se tiendront à carreau.
Alors croiser les doigts, j'espère qu'on va faire un peu plus que ça du côté des autorités, non, qui sont en alerte
Depuis le tirage. Ouais.
Voilà, depuis le tirage, qui savent que ça va être très compliqué. Ça démontre que les fermetures de parkage, ça ne fonctionne pas. En même temps, j'ai pas la solution quand ça se passe mal. Quelle est la sanction
La vraie problématique de l'Étoile Rouge à Belgrade, on le rappelle, c'est qu'ils ont des officines dans tous les pays d'Europe, en gros, et que finalement ceux qui sont en Serbie ils peuvent pas bouger, mais par contre tous les autres,
c'est la référence du foot, l'ex-football yougoslave.
25 ans qu'ils n'étaient pas en Ligue des Champions.
Mais ils l'ont beaucoup fréquenté, la Coupe d'Europe des clubs champions. C'était un club qui était quasiment tous les ans en quart de finale ou en demi-finale.
On a demandé ça
dans les années 60-70.
Dans les années 90.
J'étais à cette finale à Paris, effectivement.
Non, donc c'est une ambiance qu'on ne connaissait plus et on était bien content de plus la connaître. Et c'est vrai que on espère que ça va bien se passer parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que de sécuriser une tribune quand des supporters et dont certains qui sont un petit peu belliqueux se retrouvent au milieu et peuvent se retrouver avec des familles,
oui, des
gens,
etc. Le public des ennuis du Parc des Princes qui
donc
vient voir un match,
il y a une véritable crainte des autorités et mais qui est prise en compte depuis assez longtemps. Donc on peut espérer que en amont il puisse y avoir quand même un certain nombre de dispositifs et de dispositions prises pour que ça se passe le mieux possible.
Parlons football désormais avec cette phrase du latéral droit Stojkovic. Je vous rassure, je suis pas en train de faire le mec qui se dit il y a que des Stojkovic. Il y a vraiment un latéral droit qui s'appelle Stojkovic. Croyez en nous, nous ne décevrons pas face au Paris Saint-Germain.
MDR.
Voilà. Ça te pose
MDR.
De quoi ?
Non, mais la phrase, le mec qui se croit, il s'écrit dans Gladiator.
Attends.
Alors que bon, on sait très bien comment ça va se terminer pour eux.
Ah bon ?
Bah oui.
Toi, est-ce qu'Andrew, notre auditeur qui est passé nous voir, est-ce que tu es confiant pour ce match de Ligue des Champions ? Ce PSG est quand même au pied du mur, les enfants. Enfin, t'as pas intérêt de te planter, quoi.
Oui, il faut gagner, c'est sûr. C'est obligé. Il faut mettre plus de buts, au moins 3 ou 4 buts, je pense.
Petit peu à la guerre. Justement, retour un petit peu à 7-0.
Il faut leur montrer qu'on existe, surtout aux autres équipes de l'Europe, pour leur montrer. Oui, on a perdu contre Liverpool, mais on va bien le remettre en place.
C'est ça, en fait, le problème du Paris Saint-Germain. C'est qu'ayant raté le premier match, ils sont déjà dans une situation où il faut absolument prendre les 3 points.
Ouais, il faut savoir aussi que le match entre Naples et l'Étoile Rouge, ça s'est soldé sur un match nul, donc le PSG n'est pas mort dans le groupe.
Non.
Et surtout, le PSG à domicile, généralement, faut se rappeler des grandes victoires européennes, le Bayern, le Barça, ça déroule. L'équipe est tombée plutôt bien et justement ça sera un bon test pour savoir si l'intensité et l'état d'esprit va être mis en place.
Alors juste pour information, ils sont invaincus cette saison, toutes compétitions confondues, eux aussi, les joueurs de l'équipe de Belgrade qui a dominé ce week-end, alors désolé s'il y a des Serbes qui nous écoutent, mais Mladost je crois, 2-1, c'était samedi, ils ont enchaîné une 9e victoire en 10 matchs puisqu'il y a eu ce nul face à Naples et on va retrouver l'ancien joueur de Bordeaux, Cafu.
ou encore Jovicic qui ont marqué justement. Après, c'est pas terrible. Oui, donc c'est leader. Oui, c'est pas. Non, mais c'est très défensif.
Voilà. Et en fait, ils viennent avec c'est une équipe très compacte qui défend énormément et qui mise sur les contre-attaques. Ils ont deux ailiers qui vont assez vite et puis voilà, un attaquant. On essaie de le chercher très rapidement.
Oui,
et donc ça peut embêter une équipe de Paris qui risque d'avoir énormément le ballon et qui effectivement peut se faire prendre en compte de vitesse. Après, j'ai pas suivi. J'ai regardé quelques images et
tu vois, pas le championnat serbe.
Je regarde pas tout le championnat serbe. Si Paris joue comme il a pu jouer samedi contre Nice, il y a absolument rien à craindre de cette équipe de l'étoile rouge de Belgrade.
Émilie.
Alors il y a plusieurs réactions par rapport à Belgrade. Il y a Sergio qui nous dit Belgrade tiendra 15 minutes. Après ils vont céder. Il y a Maxence qui nous dit attention que les Serbes ne viennent pas arracher les jambes de nos joueurs, donc c'est au sens figuré, on s'entend, mais il a un peu peur effectivement de l'effet boucher des joueurs.
On a déjà eu un petit aperçu avec Reims. Reims nous a.
Ah, mais Nice ça a pas été ça, ils ont pas été. Ouais.
Non mais c'est vrai que Reims ils étaient au taquet.
Ouais, c'est clair. Bien aidé par Monsieur Tuchel aussi. On reste sur Belgrade.
Et donc Frédéric nous dit Belgrade va mettre le bus, le PSG va devoir mettre beaucoup de rythme pour relever le niveau.
Tourelle, je pense qu'il aura à cœur de montrer une belle facette face à cette équipe. Mais par contre, je pense qu'il faudra vraiment parler à des joueurs comme Kylian Mbappé, qui effectivement, si les Serbes ils viennent avec l'état d'esprit de faire des fautes, de casser le jeu, va falloir qu'il reste dans son match et qu'il surréagisse pas, parce que c'est vrai qu'il a tendance des fois à craquer trop facilement.
En tout cas, c'est un match que vous allez pouvoir suivre en intégralité sur l'antenne de France Bleu Paris. Avec, c'est dès 19h, donc c'est un horaire. Merci là aussi l'UEFA, un peu bien sûr pour les droits télé, tout ça. Pas la bonne chaîne. Nous, maintenant, ça marche. Là, voilà. Et on va se faire le match en intégralité avec toute la bande de Tribune PSG, avec Rinko Rabesson-Natana, avec Miguel Doren. Et après, on débriefe le match de 21h à 22h. Et ce sera aussi en Facebook Live. Elle lève le doigt, c'est-à-dire qu'elle a repéré une punchline. Et quand elle commence à avoir un petit rictus comme ça, c'est qu'elle a.
Non, mais ça m'a fait marrer parce que ça clôture le débat. Il y a Globule qui nous dit Belgrade va en prendre pour son grade.
Allez, merci, mais oui. Merci, Globule. Paf, ça c'est fait. Les amis, il n'y aura pas de quiz ce soir. En revanche, vous êtes très déçus. Je vous donne juste les petites infos. Dans mon petit panier, là. Je vous donne juste les petites infos. Et ça peut réagir pour qui veut. Les féminines qui ont fait nul face à Lille, ça c'est pas la bonne nouvelle.
Oui, mais qui ont gagné leur match aussi quand même en Ligue des Champions.
Tout à fait, mais sauf que Lyon se carapate en championnat, ça repart pour Lyon qui a battu Rodez, bilan des opérations. Aïe, c'est quasiment terminé. Ouais. Tirage au sort aujourd'hui des 8e de finale de Ligue des Champions pour justement nos parisiennes. Et alors attention, petit cours de linguistique suédoise, puisque. Vous ne le savez pas, mais Chef Manu a vécu en Suède et il m'a dit « j'intitule dit correctement ». Donc, c'est un club suédois qui s'appelle, normalement sur le papier, à la française, à la Emily Ross, qui tue Shell Tourelle, et ben ça serait Linköping, d'accord ?
C'est
et
joli,
en fait,
Linköping.
Ça se dit Linköping. Voilà, 17-18 octobre, là-bas, en Suède, au sud de Stockholm, c'est la petite ville de 150 000 habitants, et retour à Paris le 31 octobre ou 1er novembre à Jambouin. Voilà, ça on avait la réaction. Philippe Boindrieux qui s'en va.
Oui, mais c'était
annoncé. Ouais, il retourne dans sa maison.
Voilà,
même,
on rappelle, Philippe Boindrieux qui a été directeur adjoint, général adjoint du Paris Saint-Germain. Il a occupé à peu près tous les postes.
Tous les postes.
Au PSG. Il a tout fait. Ouais, il a tout fait. Il a fait même président. Il a été quelques jours président.
Tout à fait.
Faut-il le rappeler. Je voulais juste vous entendre quelques instants sur le PSG qui se présentait. Le journal du dimanche l'a annoncé hier. C'est reparti. Un troisième audit des contrats de sponsoring qatari du club qui va avoir lieu. Voilà, une nouvelle fois pour vérifier la valeur. Et on rappelle que l'UEFA a annoncé récemment la réouverture de l'enquête sur le PSG et son non-respect.
Moi, je sais que ça fait plaisir aux grandes d'Europe de faire chier le Paris Saint-Germain, donc voilà, et que finalement ça devrait, on devrait avoir le même résultat que ce qu'on a eu il y a quelques mois, et finalement Le Paris Saint-Germain devrait s'en sortir, je pense.
Il a dit un gros mot, ça fera un euro dans la boîte à sous. Oui, oui mon Bertrand.
Je ne sais même plus quel mot j'ai dit.
Je ne le répéterai pas.
Non, mais c'est bien, faut vérifier. S'il y a des doutes, on vérifie. Mais plus on vérifie, si on trouve rien, c'est que ça doit bien se passer. C'est des querelles d'experts.
On a compris qu'il y a deux entités.
Et puis, ça fait plaisir à M. Tebas et son orchestre.
Eh bien, Porqué Tebas, Golden Boy, UEFA 3 Titi du PSG, on parle toujours des jeunes, c'est bien. Diaby, Wea et Hudson Edouard, qui est désormais au Celtic. Les Golden Boys, vous savez, c'est les 40 meilleurs jeunes UEFA. Pour un petit peu.
Il n'y a pas Daniel Alves?
Non.
Il est parti.
Il est parti. Ah, ça va, il est dans le coup. On termine là-dessus.
Il est dans le coup.
Oui, c'est un Golden Boy aussi, Daniel Alves.
C'est quel âge?
Hein, je sais plus.
71 ans.
Il est dedans.
Tu mets Mbappé aussi dedans?
Je sais pas. S'il est.
Peut-être.
Il y a Mbappé.
Mbappé. Bon, j'avais oublié. Tu vois, j'avais mis Edouard en plus.
Il est un peu hors catégorie, mais.
C'est les moins de 21 ans.
Donc voilà. C'est vrai. Ouais. Bon, Kylian, si tu nous écoutes, je suis désolé.
Il gagnera le ballon d'or des jeunes, là.
Ouais, le ballon d'or.
Je pense que c'est pour lui.
Le ballon d'or Club Mickey. Non, mais c'est nul. Tu donnes le ballon d'or ou tu le donnes pas. Enfin, tu vas pas faire un truc pour les jeunes pour juste faire plaisir à Kylian Mbappé.
Non,
ça fait comme les 7 d'or. Après, ça, c'est parti.
Tu continues.
Cette année, bien sûr. Oui.
Compliqué.
Non.
Cette année, compliqué.
Ils ont créé ça exprès.
J'ai lancé le tapis et vous savez qui va terminer cette émission. C'est Andrew. Voilà, Andrew. Merci de ta fidélité.
Merci beaucoup à tous. Merci. C'est très gentil de m'avoir accueilli.
Ah, bah, c'est.
Et donc, après le on va chez toi en Écosse.
Exactement. Il y aura du whisky alors et tout ça.
Très bien. Bien sûr. Avec modération. Surtout, toujours. Surtout, attention. Merci Andrew et merci à toi de voir sur ta fidélité. 18h34, merci à Sarah qui a réalisé cette émission. Joss, Bertrand. Bertrand, tu salues la team du Parisien.
Immédiatement, dès que je
sors. Tu as vite filé Joss sur YouTube à retrouver avec l'Open Space. Tonton Steph à retrouver demain matin. Ici, c'est France Bleu Paris. À quelle heure?
8h10.
Et avec déjà une petite idée en tête pour l'édito?
Non, pas du tout. Plein d'idées.
Ça phosphore.
Beaucoup d'idées. Va falloir juste faire le choix.
Émilie, Digital Manager, Uniteam Sport. Elle a peut-être repéré le dernier message pour se dire au revoir.
Pas du tout. Tout le monde. Tout le monde est très agréable aujourd'hui. Merci à tous pour vos commentaires. Envoyez parce que c'est vraiment
du
bonheur.
Des cœurs pour Émilie.
Ils sont trop forts. Donc merci à tous. Et on se retrouve mercredi. On va faire péter Internet.
Voilà, on va faire péter Internet et on se rejoint mercredi soir 22h, je m'y fais pas, 19h-22h pour PSG Belgrade en direct et en intégralité sur l'antenne de France Bleu Paris. Prochaine tribune PSG, c'est lundi prochain, 17h30. Ciao, bye bye.
Thank you. Bisous.